Vous écoutez RTL.
Bonjour, c'est Laurent Ruquier. Merci d'écouter le podcast des Grosses Têtes. Grâce à vous, nous sommes le premier podcast de France. Dorénavant, l'émission sera divisée en deux podcasts chaque jour, pour deux fois plus de rire, évidemment. Merci pour votre fidélité et bonne écoute. Bon, je vais essayer de poser une question
à laquelle, oui, pour nous.
À laquelle Monsieur Bénichou peut répondre.
Ah, il est arrivé, Pierre Bénichou.
Non, il est en train de se garer.
Une question pour Patrick Mossaz, qui habite France, dans l'Ain. Et la question concerne Chantal Goya. Ça...
Jean-Jacques Debout.
Le lapin.
Monsieur Bénichou connaît bien Chantal Goya, car elle est l'épouse d'un de ses meilleurs amis, Jean-Jacques Debout. Et justement, Chantal Goya, nous dit-on dans la presse, fait un carton avec les réservations de son spectacle, qui n'est pas un nouveau spectacle, hein, qui est une reprise.
Je ne suis pas sûr que ce soit culturel. Comme
Le soulier qui vole. Oui. Ouais. Elle a 76 ans, Chantal, mais elle continue à chanter pour...
Toujours la même robe.
Toujours, ouais.
Elle continue à chanter pour les enfants et ça fait, paraît-il, un tabac, Le soulier qui vole, les réservations battent leur plein. Et on nous dit d'ailleurs que Chantal Deguerre, de son vrai nom, s'appelle effectivement Chantal Goya parce que un jour, Jean-Jacques Debout était devant une toile, un tableau du peintre espagnol Goya. Et c'est quelqu'un qui a dit à Jean-Jacques Debout, tiens, regarde comme ta femme, ou plutôt ta fiancée, à l'époque, je ne sais pas s'ils étaient déjà mariés, Chantal Deguerre, regarde comme elle ressemble à ce personnage sur le tableau de Goya. Tu devrais l'appeler Goya. Mmh. Mais quelle est cette personnalité qui a donné cette...
Charles Trenet.
Charles Trenet, non.
Pierre Bénichou lui-même.
C'était un producteur de disques.
Un producteur de disques.
Un réalisateur.
Non.
Quelqu'un de connu, quand même.
Quelqu'un de très connu, oui. Autrement, je ne vous poserai pas la question. Qui est mort ?
Un réalisateur ?
Un peintre ?
Un peintre, non.
Réalisateur de films ?
Un réalisateur, non.
Un comique ?
Un comique, non.
Un directeur de radio ?
Non plus.
Un chanteur ? Un romancier ?
Un romancier, non.
Un journaliste ?
Un chanteur, oui.
Ah.
Alors...
Bah oui.
Charles Aznavour ?
Johnny.
Johnny Hallyday, non. Charles Aznavour, non.
C'est Thierry Le Luron.
Quelle année ?
Il est mort quand, cet homme ?
Ils sont dans un château. Hein. Je ne vais pas vous dire où, parce que ça vous aiderait. Ils sont dans un
château. Claude François ?
Non. Ah. Ils sont dans un château. Il y a Jean-Jacques Debout, il y a Chantal Goya. Et là, il y a une autre personnalité qui dit « Tiens, regarde Chantal. Regarde comme elle ressemble, ta femme, à ce tableau. Tu devrais l'appeler Chantal Goya. »
Bobby Lapointe ?
Bobby Lapointe, non.
Est-ce que Jean-Jacques Debout a écrit pour ce chanteur ?
Je ne crois pas. Non, non.
Ah,
c'est
non, mais d'accord.
C'est un auteur, compositeur-interprète ?
Ah non, c'était juste un interprète, lui.
Maurice Chevalier.
Maurice Chevalier, non, mais on se rapproche.
Hervé Villard.
Hervé Villard, non.
Jean Sablon.
Jean Sablon, non.
Ce genre de chanteur ?
Ce genre de chanteur, pas tout à fait.
Philippe Clay.
Philippe Clay, non.
C'était un chanteur archi-connu de l'époque.
Archi-connu de l'époque.
Et qu'il est mort il y a
Mike
longtemps.
Brandt.
Et je vais vous dire, Pierre Bénichou peut interpréter tout son répertoire.
Oh. Mouloudji.
Pardon ?
Mouloudji.
Mouloudji, non.
Serge Reggiani.
Serge Reggiani, non.
Yves Montand.
Charles Brassens.
Yves Montand, non.
Un chanteur réaliste, un peu ?
Un chanteur réaliste, non.
Non.
Est-ce que c'était un chanteur de charme ?
Ah oui, oui, madame.
Tino Rossi.
Tino Rossi, non.
Il est mort à...
Oh, on y a cru,
Mais il est mort en quelle année, ce chanteur ?
Ah, ce chanteur est mort en 1970.
Est-ce que ça commencerait par...
Ah non, on vous a soufflé.
Mais non, c'est un rapport avec le sexe. Je le connais, moi, ce chanteur.
Tout le monde le connaît.
Oui, c'était un peu un crooner, c'est ça.
En crooner, c'est pas le mot.
Adamo. Dario Moreno ?
Dario Moreno, non, mais on se rapproche encore.
Ah. Luis Mariano.
Luis Mariano, bonne réponse de Florian Gazan, c'est Luis Mariano. Ils sont dans un château à Biarritz. Et c'est dans ce château qu'il y a un célèbre Goya, paraît-il, où on voit un personnage qui ressemble à Chantal Goya. Et voilà comment Luis Mariano dit à Jean-Jacques Debout, voilà, t'as Chantal, Chantal Deguerre, tu devrais...
Je connais même le tableau.
Ah bah alors, pourquoi vous ne l'avez pas dit alors ?
Parce que je ne savais pas que c'était Luis Mariano.
Et maintenant, Pierre Bénichou va vous interpréter...
Non,
la belle ce matin, un lapin.
Un stop ou encore, Luis Mariano sur RTL.
Ah. Et on commence avec, évidemment, la belle de Cadix. Pierre, c'est à vous.
Il était une fois une frieur, un roi au cœur, plein de tristesse.
C'est pas la belle
c'est
de Cadix.
C'est pas la belle de Cadix.
Ça commence mal.
C'est la belle de Biarritz.
Alors, stop ou encore ? Alors, ben, stop.
La belle de Cadix a les yeux de velours. La belle de Cadix.
Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas de la mort.
stop ou encore, encore le chanteur de Mexico, Pierre Benichou.
Alors, le chanteur de Mexico, allons-y.
On a chanté les Parisiennes, leur patine et leur chapeau. On a chanté les Norvégiennes, qui vont aux arènes pour le torero.
Stop ou encore
Pierre Benichou, encore.
L'amour est un bouquet de violettes.
L'amour est un bouquet de violettes. Ça n'est, mais donnez-moi ces fleurettes. J'abandonne
le
métier.
Il fait ce qu'on lui demande, c'est Louis Marionnette.
RTL, la valise.
Et si on confiait pour la première fois la valise RTL à Mela Bedia, qu'est-ce que vous en pensez ?
Évidemment, évidemment.
Ah, la petite jeune.
Mela, ça s'écrit comment, Mela ?
Ah, Mela.
M-E-L-H-A.
C'est comme une pêche Melba sans le B, quoi.
Voilà, et avec
Bedia,
un H aspiré.
Bedia, B-E ?
B-E-D-I-A. J'ai l'impression qu'il me fait mon thème astral.
Non, non, il fait un Scrabble avec tes lettres. Ouais, bah je te vois pas un bel avenir, là, tu vois.
Marcella, c'est vous qui allez choisir un numéro entre 1 et 20.
Alors.
J'aimerais bien faire. Alors, un. J'adorerais être elle. J'ai envie d'être toi.
1.
Le 1. Voilà un joli choix. Notez bien, mais là, vous allez appeler Loïc Moreau. Monsieur Moreau habite Plourin-les-Morlaix.
Ah mince.
Oui, ah bah oui, comme vous dites.
En Suède.
Plourin-les-Morlaix, c'est dans le Finistère, du côté de chez monsieur de Kersauzon.
Très beau. C'est bien le Finistère.
C'est un très bel endroit.
Et ça sonne chez monsieur Loïc Moreau à Plourin-les-Morlaix.
Mais qui va pas répondre d'ailleurs.
Allô ?
Hey, salut Loïc, c'est Chimène Badi en direct sur... Non, je... Bonjour Loïc.
Oui, bonjour.
Ça va ?
Oui, très bien.
Qu'est-ce que vous faites, Loïc, aujourd'hui ?
Ah, je suis au travail.
C'est pas vrai, qu'est-ce que vous faites comme travail ?
Chauffeur-livreur, donc il faut que je me gare, là.
Alors, ce serait bien, moi je vous conseille de vous garer sur le bas-côté.
Parce que vous avez déjà deviné qui vous appelle, Loïc ?
Oui, je pense que c'est RTL.
Eh oui ! Ouais ! Les grosses têtes. Est-ce que vous avez reconnu la voix féminine, enfin féminine, la voix, la voix de celle qui vous parlait?
Plus ou moins, mais j'ai pas son nom.
C'est la petite Mela Bedia, vous savez qui.
Voilà, voilà, c'est ça.
Oh, vous savez, je commence.
C'est la plus jeune des grosses têtes, mais
et la plus vierge.
Mais,
la...
Oui.
Mais c'est marrant.
Ça, c'est pas
ça
dur. Ouais. Ouais.
Mais comme ça, ça détend tout le monde.
S'appeler Mela et être vierge, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pas qu'à l'oreille cassée là.
Là, c'était Benichou.
Alors, Olivier de Kersauzon, Marcella Yacoub, Christophe de Chavannes, Stevie Boulet, Florian Gazan et moi-même accompagnons la petite Mela qui va vous poser la question fatidique, Loïc.
Qu'est-ce qu'il y a dans la valise RTL ?
J'espère tout avoir. 1033 euros.
Oui.
Une boîte de ronde de rose éternelle, la vie en rose 100% naturelle.
Oui.
Un jeu pour PS4, Jump Force de Bandai Namco.
Oui.
Une perceuse vicieuse sans fil, Black & Decker.
Pas vicieuse.
Une perceuse vicieuse.
Une perceuse vicieuse. Je vais le trouver, ce mur.
C'est ce que j'avais dit, notez bien, mais...
Je vais le trouver, ce mur.
Mais une perceuse vicieuse Black & Decker, c'est vrai.
Oui, une boîte bienvenue avec Apocalypseville plus 3000 Lego.
Oui.
Et un DVD du film Venom.
Et...
Ah non.
Aïe, aïe, aïe.
Oh là là.
Et c'est tout, vous avez bien tout.
Ouais, bravo. C'est pas la perceuse qui est vicieuse. Hein.
Ouais, vous avez bien tout et vous pouvez remercier la petite Mela pour sa première valise RTL. Elle tombe sur un gagnant, vous rendez compte.
Merci Mela.
Merci à vous Loïc.
Et Marcella aussi qui a choisi votre
c'est
numéro.
C'est Marcella. Ah ouais. De toute façon, c'est merci toujours Marcella et moi aussi. Je fais la finition.
Quel est votre...
Tu vois ?
Quelle est votre grosse tête féminine préférée ? Est-ce que je peux savoir, Loïc ?
Loïc, oublie pas ce que tu viens de gagner, frère.
Oui. Ouais, elles sont toutes très bien.
C'est faux.
Et vous êtes donc chauffeur-livreur. Vous écoutez sur la route les grosses têtes l'après-midi.
Oui, c'est cela.
Et qu'est-ce que vous livrez, pardonnez-moi ?
Des médicaments.
Ah,
des pharmacies.
Très bien. Mais là, il faudra peut-être y aller parce que c'est une urgence.
Non. Mais je suis pas loin de chez Monsieur de Kersauzon, de toute façon.
Ah, c'est vrai ? Vous livrez ?
Ah bah oui, je suis à
Morlaix. Le château.
Vous dire son adresse personnelle, vous
connaissez,
dire
vous connaissez le
château ? Oui, peut-être un petit médicament, on ne sait jamais.
Du Viagra ?
Vous connaissez le château d'Olivier de Kersauzon ?
Il a un château ?
Mais oui.
On n'a pas été présenté. Enchanté. Mais une crampe.
Je vais aller voir son château sur Internet.
Ah, je sais pas si on le voit sur Internet.
On peut le voir.
On le voit sur Internet, votre château.
Je ne regarde pas, putain. Et, non, je ne l'ai plus, de toute façon, je l'ai vendu. Là.
Vous avez vendu votre château.
Mais tu nous dis rien.
Ouais, ouais,
c'est Stéphane Plaza qui vous l'a vendu.
Non, Stéphane Bern.
J'ai vendu à des Anglais.
Vas-y, invite-moi.
Non,
il l'a vendu.
Attends, il l'a vendu aux Anglais en plus.
Mais tu l'as vendu cher. T'as fait une petite plus-value ou pas?
Ah bah, des Anglais, à mon avis, ils ont dû le vendre très cher parce que vous n'aimez pas les Anglais.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Franchement, c'est fou ça que vous avez
vendu. Ceux-là, ils les aiment bien. C'est garanti que ceux-là, il est même copain avec maintenant.
Vendu à des Anglais, vous. Vous avez trahi notre pays, monsieur.
Si t'as vendu notre patrimoine,
c'est scandaleux. Et Jeanne d'Arc est morte pour ça en plus.
Parce que Jeanne d'Arc, elle était vierge comme moi.
Mon patrimoine.
Toi, si on te met le feu, ça va prendre du temps à brûler quand même.
Bah pour tes enfants, tu laisses pas une maison.
Allez, on essaiera pour l'Aïd El Kébir. Bon, Olivier, non, mais vous pouvez l'inviter, la petite, quand même.
Non.
Mais si, je veux voir.
Mais non, je veux pas.
Fais-moi une journée porte ouverte.
Ça m'intéresse pas.
Mais ils sont déjà installés, les Anglais, et tout.
Ouais, ben, ils ont des... Ouais, ils travaillent, ouais.
Vous êtes retourné depuis pour voir ce qu'ils ont fait de votre château? Non.
Il a des téléphones de dealer, hein, quand même, depuis tout à l'heure.
Je suis en studio, là, je te rappelle.
La pègre de papéité.
Qu'est-ce que vous appelez un téléphone de dealer?
Bah, c'est les téléphones intraçables. Ça, c'est le genre de téléphone que tous mes amis de banlieue.
Oui.
Je ne pouvais pas vous mentir qu'ils arrivent à joindre les deux bouts bien comme il faut. Hein. Et ben, ils ont ce genre de téléphone. On appelle ça des PGP. C'est le nouveau morceau de Booba d'ailleurs.
Ah oui?
Ouais.
C'est quoi PGP?
C'est genre un truc en anglais, programme, je sais pas quoi. Vous irez rechercher. Enfin, si les gens sont pas sur le Minitel. Et du coup, vraiment, c'est intraçable. Il peut préparer un GoFast. On ne sait pas où il est.
Non, alors, je crois que c'est tout simplement c'est un vieux. C'est pas un PGP, c'est juste
un vieux modèle.
Un Motorola de 1976.
Voilà. Moi, je vous dis qu'il fait des affaires. Moi, je vous dis qu'il fait des GoFast.
Il est encore sur Itinéry.
Ça évite de faire des pocket phones. J'aime bien. Moi, je bouge beaucoup.
Non, des pocket calls. C'est quand c'est votre poche qui appelle.
Ça s'appelle les concus, quoi.
Comme vous le vouliez.
Ah,
ça s'appelle la pocket call.
Ah, ça arrive beaucoup dans les familles de kangourous.
Dans un tiroir du leader cubain, vous savez évidemment que ce fut longtemps pendant Fidel Castro, mais c'est encore le cas aujourd'hui, dans le tiroir du leader cubain, s'accumule depuis 1934 des chèques envoyés chaque année par les États-Unis, un chèque de 4 000 $ chaque année. À quoi correspondent ces chèques? Ce chèque envoyé chaque année, mais depuis 1934 par les États-Unis.
Et les chèques pas. Et les...
Chèques que n'encaissent pas les Cubains.
Ah.
Chèque cadeau. C'est pour la location du camp de Guantanamo.
Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Guantanamo, c'est pas une île en soi.
Non, c'est
Cuba.
Sur le territoire cubain.
C'est assez étonnant, évidemment, que les prisonniers américains soient sur l'île même de Cuba.
Pourquoi ils ne touchent pas les chèques?
Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette location. Ils ne veulent pas toucher de l'argent américain.
Pas la plata.
Parce qu'ils ont volé le morceau de territoire, c'est pour ça?
Non, mais ils sont là-bas depuis très longtemps.
Oui, mais pourquoi que le gouvernement cubain n'est pas d'accord avec la location?
Question d'état des lieux, au départ.
Oui, c'est ça.
Ils ne sont pas d'accord parce que les Américains et les Cubains sont pas d'accord depuis un petit moment, depuis la Révolution.
Alors,
vous voyez.
Pourquoi qu'ils y donnent une parcelle
d'avant? Pardon?
Alors pourquoi qu'ils y donnent une parcelle à Guantanamo?
Parce que ça date d'avant et qu'ils respectent la location et le contrat.
Ah, la guerre un ancien bail.
Pardon?
C'est un ancien bail.
C'est un ancien bail.
Mais c'est toujours un bail puisqu'ils reçoivent le chèque tous les ans.
Oui, mais ils ne l'encaissent pas.
Mais bien sûr, c'est normal.
Parce qu'ils ne considèrent pas que c'est normal que ce morceau de Cuba appartienne toujours aux Américains.
Non, mais c'est contradictoire parce que s'il a encaissé les chèques. Ça voudrait dire qu'ils acceptent que les autres ne sont pas propriétaires.
Exactement.
Voilà.
C'est un virement.
Voilà. J'ai pas bien compris votre raisonnement, Marcella.
Non, mais ça veut dire que si moi je donne un chèque pour occuper un espace, ça veut dire que je ne suis pas la propriétaire de l'espace. Je suis en train de reconnaître la
location,
la propriété de quelqu'un d'autre.
Oui, mais si vous encaissez le chèque, vous reconnaissez le contrat qui vous lie à quelqu'un, certes qui n'est pas le propriétaire, mais vous reconnaissez que vous avez, si vous encaissez le chèque, vous reconnaissez qu'il y a un contrat.
Oui, mais dans les fils.
Et ça, il faudra réécouter la chanson. Oh, Guantanamo.
Allez, là,
Paris, le Guantanamo.
Oh, Guantanamo, remballe le Guantanamo.
Oh, les Machu Cambos, disons.
C'est des trucs qu'on sait pas.
La Péroni savait, lui, voyez. Tiens, une question pour Blandine Vallée, qui habite Cerces, c'est en Charente. Et la question concerne les jeux vidéo qui, eux aussi, vont avoir leur cérémonie à partir de l'année prochaine, comme il y a les Césars pour le cinéma, vous voyez, les Molières pour le théâtre. Il y a désormais pour les jeux vidéo, qui sont aussi une œuvre culturelle hein, aujourd'hui, qui se vend même plus que les films et tout le reste, les jeux vidéo. 74% des Français jouent.
Ah bon ?
Oui, c'est
vous êtes sûr ?
Ah bah, jeux vidéo.
Au jeux vidéo.
C'est dingue.
Voilà. Et donc, désormais, il y aura une cérémonie qui récompensera les meilleurs jeux vidéo. Comment s'appellera donc, non pas le Molière, le César, mais la récompense qu'on donnera aux meilleurs jeux vidéo ?
C'est pas Space quelque chose, Peace quelque chose ?
Non.
C'est à voir avec un des personnages, là, comme le petit Mario, là ?
Alors, ça a à voir avec, comme vous avez raison, un des personnages. Enfin, personnage, c'est pas tout à fait le mot, mais...
Le nom d'un jeu connu, quoi. Le nom.
Un jeu, je suis pas sûr qu'il y ait un jeu.
Mais Avatar.
Le Zelda ou quelque chose comme ça ?
Non, non.
C'est le nom de la personne qui va faire le trophée ?
Non, du tout.
Non, c'est le nom d'un personnage d'un jeu qui a été mythique.
De toute façon, ça vient de quelque chose de mythique, oui.
Ah, Mario. Ça peut Tetris. Être genre le Tetris, comme on faisait au début, les Pac-Man, les choses comme ça, les tout débuts, non ?
Il y aura 19 récompenses. Hein, le meilleur jeu indépendant, le meilleur mobile, le meilleur personnage. Il y aura une Académie des arts et techniques de la vidéo qui distribuera, c'est quand même la première industrie nationale culturelle, devant le livre et devant le cinéma,
oh là là.
Les jeux vidéo.
Le Capitaine Flamme.
Non, ça vient de la mythologie, voyez-vous.
Ah. La mythologie.
Ulysse.
Ah, Tetris.
Hercule Game.
Tetris,
Hercule, non, on distribuera une créature de la mythologie grecque.
Ben Minotaure.
Minotaure,
Prométhée.
Non.
Amphitryon.
Non, j'ai dit créature de la mythologie grecque.
Là-dessous.
Ah, il a un œil de plus, un truc comme ça.
Cyclope.
Cyclope, un genre comme
non,
ça.
Non.
Méduse. Le Minotaure.
Non.
Les Amazones.
Amazones, non, mais on se rapproche.
Comment ça s'appelle les machins là
Les équidés. Les...
Non, alors, ça,
les chevaux.
Alors,
les
équidés.
Les humains.
Équidia.
Alors, vous êtes tout prêts, vous brouillez.
Équidos.
Le tiercé.
Pardon.
Le tiercé.
Qu'est-ce qu'elle dit?
Le quintet.
Non, mais enfin, voyons.
Les aiguillères. Les cavaliers.
On est dans la mythologie grecque.
Alors comment les Pégases.
Les aiguillères.
Pégase.
Les Pégases. Bonne réponse de Michel Bernier. Les Pégases. Dans quelle célèbre œuvre littéraire trouve-t-on le docteur Samuel Ferguson qui est le héros des aventures?
Le beurre de Roger Ackroyd.
Non.
Non.
Stevenson.
Stevenson, non, mais ça, non. On se rapproche.
Robinson Crusoe,
ça non,
très
mais
fort, ça
on se rapproche.
Camille sous les mains.
Eh bien, peut-être...
Est-ce que c'est un auteur français?
D'ailleurs, pour tout vous dire, hein, mon petit Stevie, le héros de Robinson Crusoe, et je
ne
peux pas vous décevoir.
Non, mercredi, merci.
Non, c'est Robinson...
Non, ravioli.
C'est Robinson Crusoe.
Ah bah oui, c'est vrai. Oui.
Alors, le héros, c'est...
Vous voyez
c'est... Oui, oui.
C'est comme dans Robin des Bois, le héros, c'est Robin des Bois, vous voyez.
Oui, c'est vrai.
L'héroïne, c'est Blanche-Neige.
Le livre dans la jungle.
C'est recevable.
Il est mort en c'est de Jules Verne.
C'est de Jules Verne, oui.
Il y a le terme docteur dans le titre.
Les enfants du capitaine Grant.
Non.
Non, et ben c'est 80.
Tour du monde en
80 jours.
Le tour du monde en 80 jours.
On se rapproche, mais c'est pas le tour du monde en 80 jours.
Le tour du monde
en
79 jours.
Pardon.
Voyage au centre de la Terre.
Non.
L'île Noire.
L'île Noire, non.
20 milieux sous les mers.
Où il y a les Lilliputes là?
Non, c'est pas lui.
Ah, c'est Gulliver.
Alors c'est pas 20 milieux sous les mers.
Attends, pas mal. Moi j'en connais plus.
Alors, on a dit de la Terre à la Lune.
On a dit de la Terre à la Lune.
Et de la Lune à la Terre.
Mais c'est pas ça. Mais un des plus célèbres de Jules Verne. Avec le tour. C'est vrai qu'on confond souvent avec le tour du monde en 80 jours.
Ah. Ça raconte un grand voyage.
Oui, Roselyne.
Le voyage autour de la Terre.
Non.
L'Orient Express.
Non.
Le voyage vers la Lune.
Non.
Ça commence par le voyage.
C'est un voyage terrestre.
Est-ce qu'il y a voyage dans le titre?
Non.
Non.
C'est le premier roman de Jules Verne, édité par le fameux Pierre-Jules Hetzel, qui d'abord avait refusé Voyage en Angleterre et en Écosse.
Ah oui. Voyage.
Avec les
La route des Indes
de Gustave Doré ou pas?
Pardon.
La route des Indes.
La route des Indes. Non.
C'est pas de Victor.
Il était illustré par Doré, celui-là.
Je suis pas sûr que Gustave Doré ait illustré.
Non, je parlais de Julien.
De celui-là.
Mais le voyage.
Julien non plus.
Le voyage se fait en bateau ou en train?
Alors, c'est dans le titre comment il se fait le voyage.
En ballon, en montgolfière.
Hein,
le voyage en ballon.
Comment ça s'appelle?
Autour de la Terre en ballon.
Le voyage en montgolfière.
Voyage dans les airs.
Non, c'est ballon.
En montgolfière en tout cas.
Le tour du monde en 80 jours.
Mais non.
Non, je rigole.
Oui, c'est.
Ah oui, il y avait même
autour de la Terre en ballon.
C'est pas oui.
Il y avait même un dessin animé, c'était un lion.
Il y a pas de ballon, n'est-ce pas?
Pardon.
Il y a ballon dans le titre.
Il y a ballon dans le titre.
Et oui.
Ah bon.
Le tour du monde en ballon.
Non.
Le ballon
d'or. Le ballon dirigeable.
Non.
Viens monte dans mon ballon.
Oh non mais j'ai honte quoi.
24 ouais, ouais, heures en ballon.
Non pas 24 heures, un peu plus.
Ah 38 jours en ballon, 38 heures,
365 jours en ballon.
Le tour du monde en 365 jours.
Non.
36 heures en ballon.
Non.
52 semaines en ballon.
Combien?
52 semaines.
Non.
50 semaines.
Qui dit mieux?
54
semaines. On joue en semaine.
3 ans.
Monsieur Ruquier.
Où va se nicher la culture?
Un an en ballon.
Une semaine en ballon.
Est-ce que j'ai le juste prix?
Une semaine en ballon.
Pas une semaine.
Deux semaines en ballon.
Non, non.
Trois semaines en ballon.
Huit
trois
ans. Un mois.
Et
c'est
8 semaines.
8 semaines en ballon. J'ai
8 semaines.
Monsieur, je n'ai plus vous. 10.
12.
Alors monsieur, c'est quoi ça? 12, madame.
6 semaines en ballon. 7, 4.
5 semaines.
5 semaines en ballon. Bonne réponse de Stevie.
Et pas avec gloire. Hein. Oh putain.
Oh non mais j'ai honte hein.
Quelle culture.
Comme Bachelot quand
non,
même
non, c'est ah bah oui, surtout qu'il est nantais.
Mais quand la réponse est spontanée comme ça, les auditeurs sont vraiment impressionnés.
5 semaines.
C'est 5 semaines.
5 semaines en ballon. C'est une des premières œuvres de Jules Verne. C'est après qu'il a écrit Le Tour du Monde en 80 jours. 5 semaines en ballon. Une question pour Benjamin Blervac, qui habite Lieu-Saint-Amand, c'est dans le Nord. Si vous avez lu les journaux aujourd'hui, quels sont les ennemis des Galbians?
Les ennemis des Galbians?
Non, Gabians, pardon, j'ai ajouté un L qu'il ne fallait pas.
Ah oui. Ce sont les drones.
Les drones, expliquez.
Les Gabians, en fait, c'est l'autre nom des goélands. Il y a des goélands qui détruisent les drones à Paris parce qu'ils ont l'impression que les drones viennent les empêcher de faire leur nid.
Sauf que c'est l'inverse pour les Gabians.
Comment ça?
Eh ben, comment ça fait? Je l'ai piégé.
Les drones ont peur aux gabions qui partent.
Pardon?
Non, les gabions
les gabions ont peur des drones et du coup les gabions partent.
Non, les gabions détruisent les drones.
Non, c'est-à-dire que les drones peuvent pas faire leur nid.
Non, c'est différent.
Faire des dronounets.
Eh bien non, monsieur Florian Gabian.
Merci.
Je peux vous donner la réponse. Justement, c'est l'inverse de ce que vous pensez. Effectivement, à Paris et ailleurs, les goélands détruisent les drones, tandis que dans le Midi, il y a trop de gabians. Et on a effectivement mis des drones pour chasser les gabians. Mais c'est quand même une bonne réponse de Florian. Ah. Florian Gabian. Gazan.
Gabian.
Florian Gabian.
C'est venu vite quand même, hein. Bravo.
Ça veut dire qu'en fait, un gabian, c'est un goéland marseillais.
Exactement.
C'est un goéland. C'est un goéland.
Ah tiens, une question pour Jean-Philippe Janssen.
Vous avez starting block.
Voilà.
Qu'est-ce qu'a raconté Tiffany Adams à la presse à propos d'Air Canada à cause d'une mésaventure qui lui est arrivée?
Hein? Ah ben je sais.
C'est pour Martial Bouy qui habite l'Églantier dans l'Oise.
Je sais, c'est endormi dans l'avion.
Expliquez.
Ah oui. Alors elle s'est réveillée, elle était toute seule, elle croyait que c'était un cauchemar et tout ça. Et puis elle a appelé, et puis son téléphone était vide.
Non mais attendez, vous n'expliquez pas bien monsieur. Oui. S'endormir dans l'avion, ça arrive à beaucoup de gens.
Oui mais elle était toute seule, ils avaient mis l'avion au garage.
Ah ben voilà,
bah oui.
C'est ça qu'il faut dire même.
Eh ben voilà. Je l'ai dit, m'engueulez pas.
Non justement, vous ne l'aviez pas dit monsieur Perroni, c'est quand même une bonne réponse. Eh oui. S'endormir dans l'avion pendant le vol, c'est pas très grave, voyez-vous.
Non, mais oui, non, mais oui.
S'endormir dans l'avion une fois qu'il a atterri, personne ne s'est aperçu.
C'est une grosse faute professionnelle.
Ça vous est arrivé, ça, d'oublier quelqu'un?
Dans l'avion, non.
C'est vous, monsieur Janssen, qui faisiez les allers-retours dans l'avion pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui était resté?
On fait tous, on a une zone qui est déterminée dans l'avion, on fait tous notre zone pour voir s'il reste rien et si personne n'a rien oublié.
C'est vrai. Ah voilà, donc ça ne serait pas arrivé avec vous?
Ah mais certainement pas.
Elle devait être toute petite, la bonne femme.
Oui. Elle s'était mise dans le petit filet pour les magazines.
Bah quand même, pour pas la voir.
Bah oui.
De toute façon, vous faites très mal votre travail, monsieur.
Je peux savoir pourquoi?
Oh, bah je vais vous le dire. Je vous attends au tournant.
À quel tournant?
Et monsieur Gazan me confirmera, parce que ce week-end, nous étions quelques-uns à partir à Vienne, les grosses têtes, pour un voyage.
Oui.
Nous rentrons de Vienne. Vous n'étiez pas avec nous, monsieur Jean.
Non, malheureusement, non.
Ah non, mais là, moi, on peut témoigner, monsieur Gazan.
On va témoigner. Je lève la main droite et
qu'est-ce qui s'est passé? On prend l'avion terminal D. Voyez-vous?
Oui, je vois bien.
À Charles de Gaulle.
Oui.
On revient. Pensez-vous qu'il y aurait un steward ou un connard à bord qui nous dirait qu'on va atterrir terminal F et non pas terminal D.
Ah, ça, c'est horrible. Mais je vous comprends, je compatis. C'est le bordel. Et nous, on n'ose plus le dire parce qu'on se fait taper par les gens.
Oui, bah dites-le. Parce que vous ne l'avez pas dit.
Non, mais parce qu'on part d'un terminal. Alors, c'est logique, tu t'attends à revenir au terminal où tu as garé ta voiture en plus. Hein, je vois. Et ben, on revient, mais comme Roissy, c'est l'aéroport de merde, le premier au monde, il y a des terminaux partout, le trafic est encombré. Donc, au dernier moment, on nous dit ah non, il n'y a plus de place, alors vous stationnez au terminal E, qui est carrément à l'autre bout.
Bah oui, je sais, moi j'étais au D, on a arrêté au E, j'étais au D, j'ai dû prendre un avion pour aller chercher mon scooter. Hein.
Mais c'est ça. Et nous, alors tu dis ça aux gens.
Pourquoi vous le dites pas à bord ?
Parce qu'on se fait taper.
Mais pourquoi vous faites taper ?
Mais par qui vous faites taper ?
Ben les gens. Les gens, ils sont fous quand vous leur dites qu'on est au terminal E alors qu'ils sont garés au terminal D et ceux qui ont des correspondances et qui devaient être dans le même terminal aussi. C'est pire. Parce que vous, c'est votre voiture.
Ben, enfin, il vaut mieux le dire. Là.
Ben, vaut mieux attendre que les gens ils ouvrent la porte au sol et qu'ils le disent eux-mêmes.
Ah bah oui, mais sauf
oh
que
la moi, lâcheté.
Sauf que moi, j'ai pas vu qu'on n'était pas terminal D. Alors, j'avais commandé mon taxi terminal D. Je commence en plus à râler contre la G7 et le taxi en disant « Je suis bien porte-machin, j'attends toujours le taxi, ça fait 15 minutes !» Mais il n'empêche... Et là, d'un seul coup, je baisse de ton et je m'aperçois... parce que... Je m'aperçois que le terminal n'est pas du tout celui
mais
où
je pense que parce que vous n'avez pas été assez attentif quand même, parce que le commandant de bord...
Oh, bah ça va être de notre faute
à son annonce de descente, dit « On va arriver à Roissy, gna, gna, gna. »
Non, alors là, je peux vous dire qu'il a été très attentif. Alors là, monsieur, vous êtes viré.
Ah ouais.
Non, il l'a pas dit, en plus, dites, il parle
mais
allemand.
Le courant bord, il dit, nous allons atterrir au terminal.
Ben non, rien non. Du tout, je vous jure.
Il
n'a
pas parlé de terminal.
Jamais, à aucun moment.
Et puis comme on en est dans les réclamations, le service après-vente au téléphone Air France, c'est 2,99€ l'appel.
Et le
2,99€ la minute.
Ouais. Et le petit déjeuner sur les longs courriers, c'est abominable.
Oh. Non mais 2,99€ la minute.
Mais je ne peux pas être responsable de tout ça, moi.
Si, si.
10 minutes au téléphone, tu vas me rembourser, toi.
Tu es notre hotline.
10 minutes à 2,99€.
Et il t'amène une omelette super froide qui n'est même pas réchauffée, ouais. Du café abominable. C'est pas possible, faut leur dire.
Mais t'as pris comme avion, on n'envoie pas des omelettes froides, hein, monsieur. Si. Ah. On fait chauffer les œufs. Hein.
Et le wifi.
Ah non, il te donne des biscuits.
Scandaleux. Et le wifi dans l'avion, 12€ pour un mail. C'est peut-être un peu excessif.
Ah oui, c'est vrai que le wifi n'est
bon,
n'est
c'est
pas
vrai, sans rire. Ah.
Non,
oui.
Ils sont malades.
Ils disent qu'il y a du wifi à bord. Vous savez, ils mettent une plaquette au-dessus de la pochette. Et juste ça dépasse, il y a marqué Wi-Fi à bord. Génial. Je dis, Wi-Fi, je tire le truc, et il y a les tarifs en dessous qui étaient cachés. Ah 12€ pour un mail.
Avant, attends, moi, quand j'ai connu quand j'ai les premiers avions, enfin mes premiers vols, il y avait encore le téléphone par satellite dans l'avion. Ils les ont retirés. Mais tu mettais ta carte, c'était quelque chose comme 10€ les 20 secondes. T'as appelé, moi, j'ai dit, maman, je t'aime.
Ça fait cher l'amour.
Hein. Surtout pour sa mère. Ouais.
Non, donc c'est vrai que j'appelle toujours ma mère pour la rassurer, la pauvre.
C'est vrai.
Ouais.
Tu m'appelles avant l'émission ?
Profitez de l'antenne, là. Dites-lui que tout va bien.
Bah maman, je t'aime, tout va bien et je suis désolé pour le book. Ils ont perdu le book. Mes parents, le book il est mort.
Ah merde.
Raconte-nous.
Ta mère a rasé son book ?
Je précise pour les auditeurs, c'est un animal, c'est pas un livre. Il y en a pas à la maison. Ouais.
Ou c'est pas la barbe de sa mère.
Mais ils l'ont perdu. Il est mort ou ils l'ont égaré ?
Non, il est mort.
Il était âgé.
Oui, mangé par les vers.
Hein ?
Bah, c'est ça, il y avait des vers.
Bah, vous n'avez pas vu que son ventre
bougeait ?
Ils ont
des antibiotiques pour le soigner. Oui. Mais chaleur plus vers, et le bouc en enfer. Hein, alors, il est mort. Il est mort.
Il avait un petit nom, ce bouc ?
Oui. L'appeler le bouc. Non, je crois que c'est Simon. Simon. Simon, et puis il y avait la petite biquette.
Simon.
Et
la petite biquette, elle s'appelle comment ?
Elle se retrouve toute seule.
Vous avez appelé le bouc Simon. Vous êtes antisémite dans la famille.
et la biquette, elle s'appelle Sarah, peut-être.
RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes.
Melchior est au téléphone. Bonjour, oh. Melchior.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Quel
bonjour.
Joli prénom, dites donc, Melchior. Pourquoi vos parents vous ont prénommé ainsi ?
Parce qu'ils restaient souvent à la crèche.
Allez savoir. Vous habitez Boulogne, vous avez 24 ans seulement, Melchior.
Oui, exactement.
Et ça ne vous a jamais interrogé de savoir pourquoi vos parents... Moi, ça m'est pas toujours qu'on ne demande pas à ses parents pourquoi ils vous ont appelé comme ça.
Oh, une éducation un peu peut-être catholique.
Ah bah voilà, quand même. Ouais,
c'est joli.
Je donne pas votre nom de famille pour éviter tout jeu de mots, hein, Melchior. Vous êtes d'accord ?
Oui, voilà. Je vois Jean-Philippe qui te régale dans ce cas-là. Donc
ouais. Il s'appelle Melchior le gay.
Ah bah voilà. On n'était pas loin quand même des déguisements. Hein.
Ouais. Ah
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Melchior?
Moi, je viens de terminer mes études et j'ai actuellement un boulot.
Et vous cherchez quel genre de travail, Melchior?
Je cherche dans le conseil en stratégie, conseil aux entreprises, et je viens de finir une école de commerce.
Vous êtes prêt, Melchior?
En effet, je suis prêt.
En effet, la question est culturelle. Dans le Figaro aujourd'hui, on nous dit qu'il faut absolument aller voir la nouvelle création d'un metteur en scène que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Thomas Joly. Et au Théâtre du Châtelet, il propose un nouveau spectacle produit par l'Opéra Comique. Et il s'agit d'ailleurs d'une comédie d'Alfred de Musset, adaptée ensuite par Jacques Offenbach, qui en fit un opéra. Quel est le titre de cet opéra d'Offenbach, tiré au départ d'un livret d'Alfred de Musset, enfin d'ailleurs plus précisément d'une pièce de théâtre d'Alfred de Musset? C'est le frère d'Alfred de Musset, Paul, car il avait un frère, Alfred, Paul de Musset, qui a écrit le livret de cet opéra comique qui s'appelle... C'est donc le nom d'un opéra comique que je vous demande. D'Offenbach.
Ce serait pas Fantasio?
Et c'est Fantasio, vous l'avez gagné, bravo! Ah, fallait le faire.
Très bonne connexion Internet. Hein.
Ah oui, oui.
C'est du haut débit, mais vous
avez pensé à Spirou, non?
Vous avez la Wi-Fi, vous, hein?
je confirme.
Ah non, parce que c'est venu vite, quand même. Oui, oui. Il fallait le faire. Ah, ouais. Bravo, Melchior. Vous allez... En plus, Fantasio, Melchior, tout ça, c'est des prénoms bien, ouais, qui vont ensemble. Vous êtes d'accord, ouais. Bernard?
Vous avez le bonjour, Laurent, d'Alfred.
Melchior, c'est un prénom de perroquet en Argentine.
Ah, c'est pas vrai?
Ouais.
Vous avez eu un perroquet vous-même, Marcel?
Deux
perroquets? Comment ils s'appelaient, vos perroquets?
Dragonella et Lili. Je me souviens plus. Lili quelque chose, mais...
Lili pute.
Mais vous les aviez à Paris ou en Argentine?
Non, ici.
Ici, à Paris?
Oui, oui.
Et ils sont morts tous les deux?
Ils sont morts tous les deux à cause du parquet, en fait. Ils ont eu une allergie à cause du parquet.
Du parquet?
Et le vieux parquet, ça tue les perroquets.
Ah oui, c'est vrai, c'est connu. Oui, j'ai vu un documentaire très précis là-dessus.
Il y a ça. Il leur a donné du persil, non?
Il y a même, des perroquets qui se nouent avec les parquets flottants. Hein.
Oui, il y a.
Comment ça, le parquet?
Parce qu'ils sniffent, oui, ils sniffent, il y a une allergie.
Oui. Mais... Ils ont été condamnés au parquet.
Fallait déposer une plainte.
Mais vous riez des malouleurs. C'est pas sympa de rire de la tragédie des autres.
Ils sont, morts le même jour?
Non, l'un derrière l'autre.
Ah bah il y en a un qui a commencé, l'autre a répété. Mais ils parlaient, vos perroquets? Ils disaient bonjour Marcella, bonjour Marcella.
Non, ils étaient juste dans l'épaule, ils donnaient des bisous dans l'oreille. Oh. Toute la journée.
Oh. Dis-moi,
toute la journée.
C'était Gabon ou Amazon? Gris ou vert?
Amazon.
Amazon vert.
Le parquet matuaire.
C'est le Gabon.
Le parquet matuaire.
Il parlait très peu. Il disait
à quelle heure il rentre la pute? À quelle heure il rentre la pute? C'est quoi ce mec que tu ramènes? C'est quoi ce mec que tu ramènes? C'est quoi ce mec que tu ramènes?
Qu'est-ce que vous leur aviez appris comme phrase alors?
Non, ils parlaient pas. Ils aimaient.
Ils mataient, quoi.
Non, mais les Amazones, ils parlent pas.
Ils aimaient les policiers, en fait.
Ah, comment ça, ils aimaient les policiers?
Ils s'échappaient, ils allaient dans un arbre. Comme et si c'est pas un policier qui venait les sortir, elle ne descendait pas, elle aimait les uniformes, en fait.
Un pompier, ça
il
marchait pas.
Il a une matraque.
Un pompier, ça marchait pas.
Pas vraiment, non, il fallait que c'est un policier.
Et il fallait qu'il soit gradé, le mec, ou pas? Non.
Je suis sûr que vous avez une histoire de perroquet, Jean-Marie.
J'en ai une.
Ah oui, j'étais sûr.
Formidable, le mec, il va dans un magasin de perroquets. Il y a un perroquet sublime, avec des belles plumes de toutes les couleurs. Il chante des chansons magnifiques et... Et à côté, il y a un vieux perroquet noir, tout dégueulasse, déplumé, hideux, tu vois, qui ferme sa gueule et tout, il a le bec par terre. Et il dit, je vais prendre le beau, là, celui qui chante bien avec les belles plumes. Mais le mec, il dit, je suis désolé, mais je les vends par deux. Ces deux perroquets, oui, mais il dit, moi, j'en veux pas de celui qui est tout pourri, là. J'en veux. Il dit, monsieur, ça ne se discute même pas, c'est les deux ou rien. Il dit, ok. Si vous voulez, mais je ne vous cache pas qu'une fois rentré à la maison, le vieux, je vais le mettre sur le balcon et puis il va se barrer. Et là, le commerçant, il lui dit, je ne vous le conseille pas, c'est l'auteur.
Allez, joli. Une question pour Morgane Pennec, qui habite Plouguerneau nous annonce dans la presse économique aujourd'hui, d'ailleurs je devrais même dire la presse religieuse, c'est La Croix qui dans ses pages économiques nous annonce qu'une célèbre maison de couture française...
La Croix.
Non, ah oui. Pas La Croix.
Mais non, mais je cherche ah oui. Une célèbre maison de couture française.
C'est le journal La Croix qui nous annonce...
Oui, mais c'est aussi une célèbre... Pardon.
D'accord, monsieur Gueluc. Bon. Mais c'est, ouais, ça pourrait être dans un autre journal que La Croix, mais c'est dans La Croix...
La Croix.
Voilà, oui, La Croix, ouais. Oh, écoutez...
Mais La Croix, il n'a plus de maison de couture.
Parce que Jésus, sur La Croix, il était tiré, non pas à 4 épingles, mais à 3. Hein.
On nous annonce que la maison italienne Versace vient d'être achetée par des Américains... Et en revanche, une maison de luxe qui s'appelle LVMH, on peut la citer,
oui.
LVMH,
oui.
Vient, elle, de racheter une maison de couture dont je vais vous demander de retrouver le nom de ce couturier. Meurt très, très jeune, d'ailleurs. Il avait seulement 48 ans quand il est mort, ce couturier. Ah oh, bah oui, quand même, 48 ans, c'est mort. C'est jeune, je veux dire. Oui. Oh.
48 ans, c'est mort.
Il est mort de quoi ? Il est mort comment ?
Il n'est pas mort assassiné ?
Non, il n'est pas mort assassiné, ce couturier.
Il se piquait ?
Pardon ?
Il se piquait ?
Se piquait, oui.
Non, c'est une overdose.
Se piquait.
Mais non, se piquait, c'est les boîtes de conserve. Non. Ça n'a rien à voir avec...
Il était anglais ?
Non, t'as un couturier français qui a installé sa première maison de couture en 1912 au rond-point des Champs-Élysées. Il avait commencé auprès de son oncle qui était fourreur. Il avait appris le métier de fourreur auprès de son oncle.
Jean Patou.
Lanvin.
Vous avez dit quoi ?
Jean Patou.
Alors là, c'est vraiment, je pensais pas qu'il y en a un qui trouverait. C'est Pierre.
Eh ben voilà !
Et c'est oui, c'est Jean Patou.
Là, 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 la France.
Vous savez d'où lui vient son nom ?
Pardon ?
Vous savez d'où lui vient son nom ?
Le nom de Jean Patou.
Oui, c'est ça. Il était très, très bien membré. Et quand il faisait l'amour à sa femme, il lui disait « Non, Jean Patou ».
Oh non !
Oui, je vous jure que c'est vrai.
Mais ça s'appelait vraiment Jean Patou ?
C'est déjà formidable de trouver un couturier qui fait l'amour à sa femme.
Est-ce qu'on l'appelait Jean Patou ?
Jean Patou ! Jean Patou ! Jean Patou !
Il s'appelait Jean Patrick, on va dire Jean Patou.
Et alors, c'est évidemment pas seulement un couturier, mais un grand fabricant de parfums. Hein.
Oui.
Et oui.
Et oui.
Alors, moi, je savais pas, mais un des plus grands parfums qu'ils aient lancé, la marque Patou, avec son beau-frère. Il avait fait ça, donc, comme quoi, il était marié, vous avez raison, Philippe.
C'était
Gueluc.
Le parfum pur hasard.
Ah non, ça pouvait être...
Non, Joy, la marque Joy. Je sais pas si vous avez connu ce parfum, Joy. Et alors, c'était assez gonflé quand ils ont lancé ce parfum. Écoutez bien le slogan. Aujourd'hui, plus personne n'oserait utiliser un slogan pareil. C'était Joy, le parfum le plus cher au monde. Aujourd'hui, on vend plutôt sur le côté
Lidl.
Moins cher.
Ouais, Lidl, oui. Ouais.
Pardon ?
Plutôt Lidl aujourd'hui.
Ah oui, vous achetez vos parfums chez Lidl.
Chez Lidl, oui.
Ça se sent d'ailleurs. Hein. Ça pue l'oreillette.
Je prends Chips.
Moi, tous les matins, derrière l'oreille, un peu de Harpic WC.
En tout cas,
ça vient de la journée.
Tirer la chasse aujourd'hui.
Tandis que Plaza, il se parfume au déodorant, on le sent d'ici.
Pas du tout.
Ah, c'est vrai, vous trouvez qu'il sent fort ?
Pas du tout.
Il sent le déodorant.
Pas du tout. Ça s'appelle
Chanel. Tu sens le Axe.
Ça s'appelle Chanel, vous savez. Et je ne les achète pas, on me les offre.
Ah bon ?
Excusez-moi, j'ai des relations.
Vous êtes sûr que ce n'est pas Roland de Navet ?
Non, non. Je vous inviterai chez moi, vous avez tout. Et vous savez, non, parce que j'ai fait comme mon ami Jean-Philippe Janssen, je me suis fait piquer pour ne pas transpirer.
Et alors, ça marche ?
Ça marche, c'est fabuleux. Je vais piquer la glande.
J'ai pas très envie de savoir, en fait.
Une question pour Monsieur Victor Boivin, qui habite le Pré Saint-Gervais. Question culturelle, pardon.
Vous avez failli dire Kiltiril.
J'ai failli dire Kiltiril, mais c'est culturel.
D'accord.
Et nous partons à l'opéra de Dijon, où a été joué un magnifique opéra. C'est d'ailleurs, si vous avez lu Le Figaro, vous saurez répondre à cette question.
Avec le très bel air de la chanson d'Amora, Amora, à Dijon.
Ah oui, Dijon. Bien sûr.
Oui, bien sûr.
Je vous voyais tourner autour du pot, mais pas à ce point.
Allez, c'est parti.
Allez-y.
Alors, écoutez, on est à l'Opéra de Dijon, parce que justement, le compositeur qui a été... Le compositeur qui a été joué justement à l'Opéra de Dijon est né à Dijon, vous voyez.
Rossini.
Et c'est pas Rossini, non. Et cet opéra est un opéra méconnu, car c'est un des derniers opéras qu'il ait pu composer.
Et donc nous, on va le connaître.
Qui s'appelle Les Boréades.
C'est un opéra bouffe, vous confirmez.
C'est pas un opéra bouffe. Les Boréades, donc, cet opéra a été joué, mis en scène par un Australien à l'Opéra de Dijon. Si vous l'avez raté, sachez qu'un DVD, la captation a eu lieu, donc vous pourrez avoir le DVD.
Bah moi, je vais me jeter dessus.
Alors là, mais... on est rassurés.
Ah ouais.
Avec Muriel, on se demandait ce qu'on allait faire ensemble.
Ah bah dis donc.
Avec les cadres.
Je vais avec vous.
Tu viens, la régalade. Allez, samedi soir, on se retrouve.
Ah ouais. Vous m'en prenez un.
Mais dites pas ça, parce que Christian Merlin, dans le Figaro, il dit que c'était très réussi.
Mais c'est pour ça qu'on
va... En même temps, il s'appelle Merlin.
Magnifique.
Quelle est la question?
Il a été enchanté par la représentation.
Il y a un paquet de mots, je ne comprends pas la question. Allez-y.
Magnifique orchestre, magnifique voix. Et c'est vrai que c'est un opéra méconnu de ce compositeur, né à Dijon, joué à l'Opéra de Dijon. Vous pourrez trouver le DVD. Ma question, c'est le nom du compositeur, tout simplement.
Ah oui,
André Rieu.
Rieu. Ah oui.
Alors déjà, il ne retrouve pas
Quelle bonne idée d'avoir Stevie dans l'émission.
André Rieu.
André Rieu, il est né.
André Rieu, voilà.
Il est hollandais.
Enfin, André Rieu, d'abord, c'est franchement...
Non, c'est pas... à Dijon.
Ah, il n'est pas compositeur, vous voyez, il est musicien seulement.
Il est né à Dijon.
Il fait le chef d'orchestre.
Deux, il est hollandais.
Il est violoniste.
Deux, il n'est pas français, il n'est pas né à Dijon, André Rieu.
Mais il est doux.
Et trois, je ne sais pas s'il est doux, je ne l'ai jamais caressé.
Il est hollandais.
André Rieu.
Mais trois, si vous voulez, c'est pas... C'est, si, en admettant même qu'il fut
Richard
composé...
Richard Klederman. Allez, on va tous les faire.
Rémi Bricard.
En admettant même qu'il fut compositeur, vous voyez, c'est comme elle a raison de Muriel, c'est comme Richard
Moustache.
Klederman. C'est pas des compositeurs qui seraient joués à l'Opéra de Dijon.
Non, vous auriez dû dire Bizet.
Voilà, Bizet, vous auriez dit Bizet, ça aurait été bien.
Ravel.
Bizet, comme c'est Bizet.
Ravel.
Ravel, ça aurait été bien.
Berlioz. Carpentier.
Ah,
Carpentier, parfait.
Il est né il
Lully
est de quelle époque?
Lully, non. Alors, il est né au 17e, mais il est mort au 18e. Il est à cheval sur les deux siècles.
Yves Saint-Martin?
Ah non, mais Berlioz. Berlioz.
Berlioz.
Alors, attendez, alors, oui, évidemment, il est né à Dijon.
Alors, Marc-Antoine Charpentier.
Et il est mort à Dijon? Est-ce qu'il est mort?
Non, il est mort à Paris. Un grand compositeur français.
Mais alors, il a fait des tubes qu'on connaît.
Ah oui, il a fait des tubes. Là, effectivement.
Il y a des opéras.
Ah, le grand Michel?
Oui. Bien sûr.
Le grand Michel.
Le grand Michel.
Oui, le grand Michel et la grande Zaza.
Ouais. Et gros zizi. La grande Zoa.
Ah, le grand Michel. Vous ne l'aviez pas. On avait connu Pascal Blaise. Vous vous souvenez de Pascal Blaise?
Ouais.
Mais le grand Michel, on l'avait pas eu.
C'est pareil.
Le grand Michel.
Chardin et Stone aussi, nous a dit une fois. Chardin et Stone.
On a tous les inverses.
Le grand Michel, ça me rappelle le petit Quitan. Tu connais le petit Quitan?
C'est quoi le petit Quitan?
Le petit Quitan merde.
Les Boréades, c'est son dernier opéra, vous voyez.
Et les autres, c'était quoi?
Ah, allez, je vais vous dire un opéra que vous connaissez sûrement, Castor et Pollux.
Ah oui, c'est le Bal des Enchantés.
Ou les Indes. Alors, son opéra ballet le plus connu, c'est les Indes Galantes.
Mais oui.
Voilà, on connaît que ça.
Ah ben.
Son nom, on le connaît, il a des rues dans Paris.
Ah, son nom, vous le connaissez? Oh, oui, il a des rues dans Paris. Comme
ah, bah, Garnier?
Enfin, pas des
comme
rues.
Comme le Palais, non?
Ah non, pas Garnier, non.
Aucun rapport.
Il a au moins une
Rameau,
rue.
Rameau. Jean-Philippe Rameau.
Jean-Philippe Rameau. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Rameau.